un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Précisément midi, un bon début d'année à tout le monde, incluant Denis Gravel. Salut mon ami!
Hello! Comment ça va?
Content de te revoir en 2025. Que ce soit de la santé puis de l'amour.
De la santé puis de l'amour à toutes vous autres aussi.
Tu sembles l'avoir déjà. Fait que je sais pas pourquoi je te souhaite ça.
Ben, que ça reste.
Qu'est-ce qui te manque?
Comment dire, mettons. Qu'est-ce qui me manque? Du calme, de la patience, du temps, du sommeil.
Travailles-tu pour ou t'es le genre de gars qui, malheureusement... tu sais, quand on dit « Ah, ça, c'est ma priorité dans la vie », puis tu te rends compte que tout le temps, c'est ta famille, mais t'as peu de temps avec.
J'ai commencé à travailler sur moi-même très tard, fait que j'ai des décennies de retard à rattraper. Puis étant donné mon manque de patience légendaire, j'aimerais que tout se règle en l'espace d'un an, mais c'est pas de même que ça marche. C'est un travail de longue haleine, là, comme qu'ils disent dans la série « La reconstruction du Canadien ».
Ah non!
C'est un peu la même chose.
T'es de même, toi.
Ouais, je suis un travail de longue haleine.
Au moi, moins, t'as pris conscience. Puis c'est la première étape.
Ouais. Julien Poulin, qui est décédé hier, ça nous a ramené plein de souvenirs. Son personnage, dont il était incapable de se séparer, Elvis Gratton, aura marqué grandement sa carrière. Il n'était pas gêné de ce personnage-là.
Absolument.
Il était content de le faire. Ouais. Mais on en perd un bon, Julien Poulin, 78 ans.
Ce qui est cruel quand un rôle te marque à ce point-là, c'est qu'on oublie le reste.
Ouais.
Puis Julien Poulin est un exemple. Mais si tu regardes à la grandeur de la planète, il y a des gens qui ont été marqués par un rôle au point où le reste de la carrière a été difficile. Puis Julien Poulin, je ne le connais pas personnellement, mais je me suis comme posé plein de questions. Tu sais, c'était quoi sa vraie relation avec Elvis Gratton? Est-ce qu'il considère que ce personnage-là était une bénédiction ou une malédiction pour la suite de sa carrière? Parce que je repensais, moi, à des choses qui m'avaient marqué. Puis j'ai comme joué à un jeu où je me disais, pense pas à Elvis Gratton, puis rappelle-toi de Julien Poulin dans d'autres choses, tu sais. Puis les deux premiers flashbacks que j'ai eus, c'est qu'il faisait un papa lutteur dans la série Robin Stella à Télé-Québec.
C'est vrai.
Et l'autre, puis je me suis souvenu à quel point Julien Poulin, c'était pas juste un gars drôle. J'ai pensé à son rôle dans le film Le Party. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un détenu qui s'enlève la vie dans des circonstances.
Ça se passe en prison.
Le film Le Party est un classique et la performance de Julien Poulin dans ce rôle-là est hallucinante. Puis nous fait voir que, parce que c'est un gars qui a été acteur toute sa vie là, d'un troupe de théâtre dans sa jeunesse, il a été en couple avec Passepartout pendant 22 ans, Marie Ekel.
La première Passepartout.
Tu vois exactement ce que tu décris, tu le fais même avec son ex.
Oui, c'est ça.
Il était avec Passepartout. Ben, donc écoute, Elvis Gratton sortait avec Passepartout.
Je ne sais pas si un soir, ils ont décidé qu'ils se faisaient une partie de fesses avec leurs personnages respectifs. J'espère qu'ils l'ont fait au moins une fois. J'espère. Mais...
ils ont été 20 ans ensemble.
22 ans.
22 ans.
22 ans ensemble, ouais.
Incroyable l'univers qui se côtoie en même temps. C'est pas la définition d'eux, là. Non. Mais c'est fou. Je trouve ça beau avoir 90, le party.
Oui,
ça remonte à un bout, là.
Un classique pour plein de raisons. Entre autres, la performance de la petite Laurier, là, pour les gens qui s'en souviennent. Oui, vous en souvenez, évidemment. Ben oui.
Ça semble cochon, comme d'habitude.
Ben
là,
c'est ça. Scroller le scroll, pis tout, là.
Exact, exact. Mais c'est vrai, les deux ont été ensemble. Puis je regardais. Marie Ekel, qui se prononçait sur le décès de Julien Poulin, elle disait que c'était un gars qui avait une super belle carrière, mais qui était constamment torturé par l'intérieur, qui se posait toujours un million de questions, puis il semblait souvent insatisfait.
J'ai eu une entrevue avec Julien Poulin et Pierre Falardeau lors du lancement d'Elvis Gratton 2. C'était au Château Frontenac, où il recevait les journalistes les uns après les autres. Puis moi puis mon ancienne collègue Marie Saint-Laurent, on est allés les interviewer, puis je pense qu'on était les derniers. Et toute la journée, Pierre Falardeau puis Julien Poulin s'étaient fait dire qu'Elvis Gratton 2, c'était pourri, c'était de la merde, puis pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, puis ça n'a pas de maudit bon sens, puis ainsi de suite. Fait que on est arrivé devant deux personnages tristounets, c'est le cas de le dire. T'sais. Il y avait une journée longue, fait qu'on a décidé, au lieu de parler du film, de parler d'un paquet d'autres choses, puis ils nous l'ont dit après, « Hey, merci, ça nous a fait du bien.
Oui, c'est sûr.
Je me souviens de Pierre Falardeau, ça a été un esti de journée de marde. les gars s'étaient fait ramasser par la critique, puis c'est drôle parce que t'entends les gens de la nouvelle génération qui sont plus collé sur Elvis Graton 2 et 3 que sur le Elvis Graton original qui est plus le nôtre, tu sais.
Mais il c'est devenu disponible des... sur YouTube en passant. Checkez bien le nombre de vues augmenté parce qu'il est disponible gratuitement.
Au complet?
Tu peux streamer. Hier, je l'ai mis en fond, en fond de télé, là. Puis, juste la réflexion derrière certaines jokes et autres, on fait souvent, ça en fait partie.
Puis, mais on avait perçu ça un peu, que c'était des personnes extra-sensibles. Tu sais, il y en a qui disent « Hey, la critique, je m'en sac comme l'an 40 ». Eux autres, ils s'étaient fait ramasser toute la journée, puis ils prenaient dur. Ouais. Ils prenaient dur. Puis, je suis pas surpris de savoir que Julien Poulin est un homme torturé, ce qui amène mes questionnements, tu sais, quand il pense à Elvis Graton, puis quand il a pensé à Elvis Graton dans les 20 dernières années, penses-tu que ça l'a empêché de faire des rôles plus dramatiques? Pourtant, c'est un gars qui a été omniprésent, là, je veux dire.
Mais dans Séraphin, c'était un rôle plus dramatique. Et moi, je l'adorais, là. Au début, j'étais comme, Elvis Graton dans Séraphin, je sais pas, mais
puis tu regardes, la liste des séries télé pour lesquelles il a joué. Je veux dire, c'est un gars qui a été très présent, peut-être moins dans les 2-3 dernières années, en espérant que ces années-là aient été agréables et que ça n'a pas été des années sombres. C'est pas un monsieur qui méritait
mais
ça.
Mais il était plus vieux aussi, 78 ans, c'est ça?
Ouais.
À un moment donné, est-ce qu'on écrit assez de rôles aussi pour ces gens-là? Ça, c'est une question. C'est des phares de notre culture. C'est des gens qu'on aime voir, qu'à chaque fois qu'ils sont à l'affiche. Mais si on leur donne toujours des rôles de grand-père ou de ci, de ça, c'est peut-être un peu moins motivant.
Et Lucien Francoeur est décédé il y a quelques mois de ça. Puis ces dernières années, ça a été des années de solitude, de regrets, d'amertume, de drogue. Ça n'a pas été un beau moment. J'espère que Julien Poulin, ça n'a pas été ça. C'est des messieurs qui ne méritent pas des fins de vie comme ça. Puis ça nous fait penser à notre propre vieillesse aussi, veut pas, puis à nos parents qui vieillissent aussi. Tu sais, on veut, il n'y a personne qui veut vieillir dans la tristesse, dans la solitude, dans la dépression. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Puis on le sait, notre génération, on va être très nombreux à vieillir dans la solitude. Tu sais.
Mais on a un rôle à jouer là-dedans, personnel.
Oui, je société, pense que oui.
Mais personnel, c'est de continuer de se stimuler. Mm-hmm. Continuer, tu sais, à un moment donné, c'est j'ai des gens qui sont à la retraite, là, très proches de moi, puis c'est comme, on vieillit, hein, tout le monde vieillit, là, les maladies, puis tout ça. Mais à un moment donné, quand tu bouges plus, quand tu te... prouve plus cognitivement, quand tu apprends plus, quand tu côtoies moins, tu vieillis.
Se trouver d'autres passions, rester curieux. Peut-être que le canal Job s'est fermé. Puis là, on présume beaucoup, là, en passant.
Non, moi,
je sais pas ce que ça a été les dernières années de Julien Poulin, mais tu sais, quand le canal Job se ferme, se trouver d'autres passions, devenir jardinier puis triper là-dessus.
Pendant.
Voyager.
Pendant. Puis nous, on a vraiment une job là, de passion. Puis ça, c'est tough. Puis je pense qu'il y a plein de monde que c'est ça. Mais quand tu as ta job puis ça te définit, l'erreur est là. Et pendant qu'elle définit cette job-là, il faut quand même que tu penses. Puis moi, c'est une des réalisations que j'ai eues dans les dernières années et je continue. Là. C'est dans mon application de 2025 là, de continuer aussi d'explorer mes autres passions. Pour ne pas être qu'une fille qui fait de la radio.
C'est dangereux. C'est le péril de la vieillesse. C'est justement de perdre une passion ou de perdre sa compagne de vie. Tu sais, il y a tellement de personnes âgées qui dépérissent à partir du moment où ils perdent l'être cher. Puis des histoires de même. Moi, j'en ai dans ma famille. Vous en avez peut-être dans les
vôtres aussi. Parlais de ça à Pascal, il y a peut-être 3 semaines, un monsieur que j'avais rencontré à Thetford Mines, 92 ans. Il revenait d'un rendez-vous chez le médecin. J'ai dit, puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'était pendant la pandémie, puis j'étais au château Bellevue à ce moment-là. J'ai dit, puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il a dit, ils m'ont dit que j'étais encore bon pour 10 ans, j'étais en tabarnak.
C'est drôle et triste en même temps.
Ma tante Rachel, qui a été mariée à mon oncle Eddy pendant toute sa vie, ma tante Rachel est décédée subitement. Mon oncle Eddy n'a pas fait l'année. Là. Des histoires de même, il y en a plein, effectivement. Faut se garder actif. Ouais. Je regardais des conseils qu'on donne aux gens là, concernant l'Alzheimer, des trucs qu'on peut prévenir. Puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. Rester en contact avec des amis, avoir un cercle de connaissances, sortir de la maison, marcher, être curieux, lire, puis ainsi de suite. Faut pas lâcher, puis faut pas se lâcher.
T'sais. Exact. Un autre extrait d'Elvis Graton, ça, c'est un de mes préférés.
Plutôt vaginal. Et elle va lentement devenir bisexuelle et morphinomane.
Oh, tabarnak!
Alors, elle a pris un jeune amant afghan. Très beau, très musclé, très, très riche, très, très tout, quoi.
Tabarnak!
Et elle a pris cet amant, justement parce qu'il était chiite, pour faire chier le psychiatre. Alors, l'action se déroule.
Hey, pour jouer un rôle de même, il faut que tu sois dans le top de la comédie. Il faut vraiment que tu sois un comédien très, très, très fort. Hey, c'est ce rôle-là, garder son calme, de pas juste avoir des fourrures, ceux qui ont eu des bloopers à pocheter, mais on y croit, là. Ce gars-là, Elvis Gratton, on y croit que ça peut être notre voisin de 6 maisons.
Puis tu laisses ton amour propre à la maison. Mm. Tu sais, moi, tout l'humour physique d'Elvis Gratton, quand il se bat avec sa chaise de vacances.
Oui, la porte de voiture.
La porte de char, tu sais, ça fait partie du personnage, puis il s'est jeté corps et âme.
Ça doit
dedans.
Tellement être le fun, là. Ça doit tellement être le fun de faire un rôle de même.
Tu te souviens-tu dans les premiers projets de Julien Poulin puis Pierre Falardeau? Le fameux pea soup.
Ben oui, écoute, les petits films qui sont disponibles sur le site de l'ONF, là,
ouais.
Où ce que tout ce qu'ils font, là, c'est se promener avec une caméra puis bitcher le monde.
Ça
là.
Me dit rien, les gars. Pouvez-vous donner un peu d'infos?
Je vais te faire entendre le petit gars. Le petit gars, il est avec un chapeau du colonel Sanders, là.
Ah oui, oui,
PFK,
oui. Il mange du poulet, c'est ça?
Il est un peu out of shape, là. Je sais pas si ça se dit pour un petit gars.
C'est chiant.
Il mange du poulet.
Une trazane. Une trazane.
Fait que si tu gagnais le million, là...
On m'achèterait un bicycle à lui, un Volkswagen à toi, un autre char à lui, un magasin de poulet African Ducky.
Yes, sir!
Un magasin chinois.
Il a faim, mon petit.
Une maison.
Le Kentucky avant.
Il a ouais. Une maison à lui, j'achèterai une maison à toi.
Il est généreux.
Il a grand cœur.
Oh, il est généreux.
Mais le resto de poulet frit Kentucky est arrivé
avant la maison.
Ouais, ouais, ouais.
Ah non, c'est.
Il y avait plein de clips de même où il y a juste ça. C'est bon, hein, pas à peu
dans
près.
Dans Pissou, j'avais juste ça là.
OK, parce que les jeunes, là, puis t'en côtoies tout le temps pendant les fêtes, vous autres, vous en avez à la maison. Mais c'est d'une éloquence, là.
Ben oui.
À faire brailler de rire, puis ça nous ramène tellement à l'essentiel, là. Les réflexions sont le fun. Puis sont souvent celles qui vont nous faire réfléchir le plus.
Elvis Allaire, ainsi que Elvis Légaré et Elvis Wong.
J'adore ça.
Soyez au rendez-vous.
Elvis Wong.
Elvis Wong. Elle est bonne, celle-là. Elvis Wong. Un chinois, ben ça, c'est le bout.
Tu sais,
attends.
Ce bout-là, tu sais, je parlais d'humour physique, là.
Ouais.
Tu sais, on le connaît tout par cœur, Elvis Gratton. Moi, avant qu'il y ait un seul mot qui sorte de sa bouche, là, c'est quand il entend Elvis Wong à la TV et il manque s'étouffer avec son spaghette.
Déjà, tu ris.
Oui, déjà là.
Ah ben, c'est bout.
Il est déjà raciste et il n'a pas dit un mot.
Dans ce film-là, il y a un bout aussi, là, qu'il est dans son char, son camion,
ouais.
Puis il embarque la pousseuse.
La pousseuse, hein, que c'est dégueu,
vient
ça.
Dégueulasse.
Oh, oui, oh, oui.
Il y a un sac dehors.
Oui, t'as-tu besoin d'argent?
Je préfère être 20 piastres en arrière. Puis comme, ah, t'es donc bien dégueulasse.
Pas le goût de faire un petit vin vite.
Tu dois être pauvre si t'es aux études.
Va te faire fourrer, mon du plaisir.
T'as rien dit, il a juste refusé ses avances de gros dégueulasse.
Mais ça, c'est Twitter avant Twitter, cette conversation de char-là. Là.
Ouais, ça devait arriver aussi, tu sais. Le gars qui l'a écrit, je veux dire, il se basait sur des trucs qu'il entendait.
Mais c'était l'obsession de Pierre Falardeau puis Julien Poulin, je pense, de montrer le côté le plus vrai et le plus vulnérable des Québécois. Le côté qu'on essaye de cacher de nous, qui est très colon, qui ressort après 3 bières dans un tout-inclus à Cuba. Si vous voulez voir la vraie nature colon des Québécois, allez d'un tout-inclus pendant une semaine, puis quand Chat Sauvage va partir là, sur le speaker, vous savez que vous êtes dans la marde pour la semaine.
Mais c'est moins pire, non? Avec les années?
Ben moi, pendant des années, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'on était parmi les touristes qui étaient les plus désagréables. Dans ces tout inclus-là. Toutes catégories confondues, plus que les Allemands, plus que les Français. Et ça, c'est pas un compliment.
C'est pas glorieux. Non, vraiment pas glorieux.
Ça, est-ce qu'un Elvis Gratton, le premier, est-ce qu'il pourrait se refaire en 2024?
Ah, impossible.
Impossible.
Hein? Impossible.
C'est
fini. On le connaît par cœur. Oui, je pense que le personnage est mort avec l'acteur. Là.
Non, mais avec les propos qu'il y avait, avec les remarques qu'il y avait, les niaiseries qu'il faisait, ça passerait plus. Là.
Va falloir revenir à ça. On le fait d'une façon différente. Tu sais, Marc Labrèche avec Anne Dorval, quand ils ont fait la série Les Bobos, qui a eu plus ou moins de succès, là, mais tu sais, on visait une catégorie de Québécois bien particulière, plus moderne. Tu sais, la gauche écolo qui se pense au-dessus de la mêlée, puis ainsi de suite. Ça se fait encore. Ça se fait pas de la même façon. Est-ce que ça pourrait se faire de la même façon? Je le sais pas. Ça prend beaucoup de talent. Ça prendrait beaucoup de talent. Faudrait que les Bougons l'ont fait.
Mais ça prend
une
la
série Les Bougons, la famille sur le BS qui essaye de crosser le système. Puis, tu sais, il n'y avait pas un beau reflet de la société québécoise là-dedans. Je pense que ça a été bien fait.
Mais ça prend une humilité. C'est pas tout le monde qui peut le faire.
C'est sûr.
Il y a des gens qui sont caractérisés comme attiser la haine envers leur travail. S'ils se lancent là-dedans, c'est un sacrifice humain. Mm. C'est un suicide de carrière, c'est sûr. Mais il y a des gens comme Labrèche, Dorval, ouais. Martin Matte pendant longtemps, pouvaient s'attaquer à ces choses-là puis être respectés. Antoine Bertrand,
il ouais.
Y en a qui sont capables.
Mais Elvis Gratton est mort, ça, ouais. ça c'est sûr.
Justin Trudeau, en vie?
Lui aussi mort. Achève.
Politiquement parlant.
Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Justin Trudeau qui a annoncé sa démission prochaine comme chef du Parti libéral du Canada et comme premier ministre. Il y a aux alentours de 10h50, 10h55 ce matin, conférence où il mentionnait qu'il devait partir. Le Parlement va être prorogé jusqu'au 24 mars. Donc, il va rester premier ministre du Canada et chef du Parti libéral du Canada jusqu'au 24 mars. Denis, ça fait 2 mois que le gouvernement ne fonctionne pas. Ouais. Puis là, on s'en va sur un autre 3 mois. Le gouvernement ne fonctionnera pas pantoute. Le Parlement, il ne sera pas, opérationnel.
C'est un manque de respect total envers les institutions. C'est le pire départ que Justin Trudeau pouvait avoir et pour son organisation et pour son gouvernement, et pour notre gouvernement, ultimement, là, il aura repoussé jusqu'à la dernière limite, et c'est malheureux. C'est un gars qui a essayé de s'accrocher au pouvoir puis qui attendait probablement une solution miracle. C'est un gars qui s'est embourgeoisé. C'est un gars qui n'écoutait pas les conseils qu'il y avait autour de lui. Ça peut être un paquet d'histoires, ça peut être un paquet de raisons, mais c'est tellement dommageable, et pour son parti, et pour le gouvernement, de voir qu'on continue de repousser le plus possible par en avant, alors que c'est du travail qui aurait dû être fait dans la dernière année et on devrait être en campagne électorale présentement ou sur le point de l'être.
Parce que le monsieur Orange, il rentre en fonction le 20 janvier.
Ouais.
Il y a des choses à négocier avec le Canada.
Ouais.
Puis là, c'est Justin Trudeau qui va négocier avec Donald Trump.
En position de faiblesse ultime. Là. Déjà qu'il l'était, je veux dire, déjà que Donald Trump, de par ses manœuvres et ses déclarations, il l'a mis dans une position de faiblesse au départ. Mais là, il est plus faible que jamais parce que les faits donnent presque raison
pour
à Trump.
Pour des commentateurs, là. Ce matin, ce qu'on disait, c'est que c'est quand même une bonne chose que Justin Trudeau fasse ces négociations-là, même s'il est en position de faiblesse, parce qu'un chef par intérim, ce serait pire, puis on n'est pas encore en élection. Fait qu'on est comme dans misère, mais la ouais. moins pire des misères qu'on peut avoir.
Il y en a un que je veux voir plus là, sur le dossier Trump dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est Pierre Poilievre. Je veux qu'il nous parle de comment il va bâtir cette relation-là entre le Canada et les États-Unis. Il se place comment? Il trouve-tu ça
le
drôle?
Gros bon sens.
Le 51e État, lui, ça le fait-tu rire? S'il se fait appeler le gouverneur du 51e État par Donald Trump, il trouve-tu ça drôle? Ça le fâche-tu? Il réagit comment à ce genre de menace-là? Je l'ai trouvé très absent sur ce dossier-là, alors que Pierre Poilievre, je veux dire, m'a harcelé sur YouTube pendant tout mon temps des fêtes. Là. Je le sais qu'il veut des mains son œuvre qui veut arrêter le crime,
ça
qui veut couper les taxes
woke.
De taxes. Je suis plus capable.
Hey, la toune, c'est woke. C'est pas nécessaire.
Ouais.
Passe à autre chose, parce que justement, pendant ce temps-là, tu bats pas avec tes idées.
En même temps, il trône au sommet des sondages. Je veux dire, sa technique...
C'est prochain.
Non, mais va pas là, ça sert à rien.
Ouais, mais ça fonctionne.
Ouais, mais c'est pas une position de force qui a exploré pendant le temps des fêtes, c'est une position médiocre.
C'est le prochain premier ministre. Je m'attends à le voir se comporter comme un premier ministre oui. et plus comme un candidat en campagne électorale. Je trouve que la distinction entre les deux est importante. On en a parlé Essentiel. Avec Bruno Marchand dans la dernière année. Tu sais, Bruno Marchand, on a souvent l'impression qu'il est encore en campagne électorale, en nous parlant pas de la réalité, mais en nous parlant de slogans puis regarder le bon côté des choses. Pierre Poilievre est en campagne depuis un an. Là, je veux le voir. Je sais qu'il n'est pas premier ministre, mais je veux le voir agir et réagir comme un premier ministre, qui prennent pour acquis que c'est lui qui va l'avoir, la job, et qui commence peut-être à travailler dans ce sens-là. T'sais.
Mark Carney, est-ce que ce serait le successeur de Justin Trudeau? Est-ce qu'on voit Mélanie Joly là? Est-ce qu'on voit Chrystia Freeland? À un moment donné, il va falloir qu'elle dise pourquoi elle shake autant, puis elle regarde au plafond, puis elle joue avec sa langue, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle. Je ne sais pas si tu as vu des vidéos là, où la caméra est fixée sur elle, pendant qu'elle est en train d'écouter un discours, puis elle brasse d'un bord et de l'autre. Là. C'est soit que tu as la maladie de Michael J. Fox, ou soit il faut te faire passer un pistesse. Un pistesse là.
Mais ça a été une année difficile pour le gouvernement. Là. Puis
mais Christopher Freeland, est-ce qu'on la voit là? Est-ce que Dominique Leblanc pourrait être là? J'ai vu chef par intérim Jean-Yves Duclos, parce qu'on ne le voit pas comme premier ministre du Canada. Là.
Ça va prendre un chef par intérim qui va être plate comme la pluie. Peut-être que Jean-Yves Duclos est le candidat idéal
mais
à ce niveau-là.
Veut pas. Il veut rester en place jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau chef qui soit mis en place.
C'est malsain. C'est malsain pour lui. C'est malsain pour ceux qui veulent préparer la suite. Puis la suite n'étant pas été préparée, t'sais, tu me garoches des noms. Moi, ça me dit rien. Puis j'ai l'impression que pour bien des auditeurs, ouais, ça leur dit rien.
Mais
aussi,
là, il est très important à votre débat, les gars. Là. Parce que est-ce qu'on a préparé ça dans l'ombre? Parce qu'on sait que tout le monde était contre Justin Trudeau au sein du parti. Puis on l'a préparé en attendant que lui annonce ce qu'il a annoncé ce matin.
Il n'y a rien qui laisse présager ça.
Parce que la première chose à laquelle on pense, c'est que ça n'a pas de bon sens. Justin débarrasse. Mais l'autre affaire, c'est est-ce qu'on était prêt? Donc, est-ce que Justin, finalement, dans le fait de débarrasser, fait aussi une bonne action qui doit être difficile pour lui et gênante parce que tout le monde va y taper sa tête aujourd'hui en disant « Vous n'étiez pas prêt de toute manière, il va falloir que je reste parce qu'il voit des enjeux qu'on ne voit pas. »
Là, c'est sûr qu'il a décidé, mais mercredi, il y a une rencontre très importante, là, il y a un caucus. Là. Est-ce qu'il pourrait aller à l'envers des plans de Justin Trudeau?
Est-ce que le caucus pourrait lui demander d'accélérer la cadence pour le bien du Canada? Peut-être, puis c'est peut-être une bonne stratégie à adopter pour le gouvernement en place pour renforcer le narratif que le gouvernement se bat contre Justin Trudeau pour le faire partir présentement. Moi, je pense que c'est la seule porte de salut qui reste au Parti libéral, mettons, pour la prochaine année et demie, là,
ouais,
avant d'être aplati complètement aux prochaines élections. C'est de dire, regarde, on a les mains liées parce que le premier ministre, il ne voulait pas s'en aller. Puis il aurait dû s'en aller il y a un an pour qu'on puisse préparer la suite, vous montrer les candidats, puis ainsi de
suite. Est-ce qu'il pourrait être élu? Le Parti libéral à la tête du Canada avec, mettons, si on nous sort là, quelqu'un qui finalement il était ferré le parti, il y a eu des consultations contre Justin Trudeau, il y a du monde qui ont parlé, qui ont fait des caucus cachés, il y avait un groupe privé Facebook, puis écoute, ils envoyaient des idées, puis là, ils ont un chef qui va arriver de nulle part.
Les démocrates l'ont essayé. Et je pense que les démocrates étaient en meilleure position lorsqu'ils ont tassé Joe Biden puis mis Kamala Harris.
Tu compares ça?
Ils étaient en meilleure position pour que ça marche. Et ça n'a pas marché. Les gens n'aiment pas le changement. Les gens n'aiment pas le nouveau. Il est trop tard pour présenter un nouveau candidat. Il est trop tard pour qu'un... À moins que ça parte comme la Hulkamania. Tu sais, des fois, il y a une mode qui part, mm-hmm, puis on ne comprend pas. La vague orange au Québec, il y a des gens qui sont pas encore capables de l'expliquer à ce jour.
Parce qu'il y a beaucoup de votes actuellement envers Poilievre qui ne sont pas pour Poilievre, mais c'était un débarras de Justin. Fait que je trouve que, en tout cas, la course aux élections va être très intéressante.
Les gens ont voté pour Jack Layton parce qu'ils voulaient aller prendre une bière avec, mais il n'y avait aucune idée du programme du parti.
Puis le pire, c'est que c'est probablement la seule stratégie qui marcherait.
Puis ça, c'est le gars qui se fait pogner dans un salon de massage, oui, asiatique. Là.
puis j'en vois pas présentement dans le Parti libéral qui ont la personnalité que Jack Layton avait. Il n'y a pas grand monde d'attachant là, au premier regard.
Ça, je vois pas ça.
Mark Carney, c'est un gars qui est beige. C'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. T'as Mélanie Joly qu'on connaît bien, mais sa façon de s'exprimer en anglais, j'ai la misère à le distinguer. Là. Mais en français, elle s'exprime pour des enfants de 4 ans.
Mais elle prise aussi avec cette
étiquette-là. T'as 50 ans, t'es un bonhomme, t'as 50 ans. Tu l'écoutes, tu te dis, mais à qui elle parle? Puis pourtant, elle pourrait être une bonne politicienne là, qui est capable de faire passer le message. Christian Freeland, moi, il y a des choses qui me restent à m'expliquer avec Christian Freeland, mais Dominique Leblanc serait un bon pic pour moi.
Okay.
Un gars qui est en politique depuis des années, qui est très respecté chez les libéraux. Mais mon premier choix serait Mark Carney, jusqu'à maintenant, mais s'il y a d'autres candidats qui s'annoncent, qui vivra, verra.
Il y a un déficit de notoriété extrême aussi. Là.
Et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps des fêtes, Denis Coderre était à côté de son téléphone. Voyons, ça sonne pas. Mais se fait, donc.
Comment ça, hein?
Hey, c'est supposé rentrer.
On sait pas.
Ils vont m'appeler. Ils ont besoin de quelqu'un, les gars. Ça n'a pas sonné.
Il n'est plus à Compostelle.
Il n'est plus là. Il s'est fait brasser, par exemple, à Infoman.
Oui, entre autres, oui. À Infoman, ils ont donné une bonne volée.
Tu sais, il y a des choses dans la vie que je vais défendre, que je vais faire l'avocat du diable. Mais M. Coderre, vous l'avez un peu cherché.
Ça a été une dure année. Dure année.
Sa maman, t'es-tu présenté pendant les fêtes, les gars?
Non, c'est pas arrivé, non.
Ça s'en vient. Lyon Électrique, qui est dans les problèmes à n'en plus finir. Je pense qu'il reste à peu près 150 employés. On a licencié 80% à peu près du staff qui était dans place. Tu sais, moi, je vous le mentionne depuis des semaines et des semaines qu'il devrait y avoir une enquête. dans l'histoire de Lyon Électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait confiance à ces gens-là? Tu sais, là, dans la presse d'aujourd'hui, on nous raconte que des anciens employés de Lyon Électrique, ils disaient non, tout était une catastrophe. Les patrons ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On recevait des commandes parce qu'on avait besoin de certains éléments pour bâtir nos autobus. Finalement, ce n'était pas le bon morceau, mais ils nous disaient prenez ce morceau-là pareil, puis essayez de le faire fitter sur le véhicule.
C'est le Lyon 4, je pense, le camion qui avait le surnom de camion tie wrap.
Camion tie wrap.
Parce qu'il avait l'impression que ça tenait avec des tie wrap, puis il disait.
On a eu le Frankenstein aussi.
Oui, parce que d'un troc à l'autre, c'est le même troc, mais d'un troc à l'autre, c'était tellement différent. Puis il y a quelqu'un qui parle sous le couvert de l'anonymat, il dit essayez de vous imaginer que toutes les Honda Civic sont pas pareilles. Hey. C'était ça, nos assemblages à nous autres, tellement c'était tout croche.
C'est fun pour les pièces.
Hein? C'est l'enfer.
Comment il a fait le PDG Marc Bédard en étant propriétaire de Lyon Électrique quand ils sont entrés en bourse? Lui, il a eu des actions. Mm-hmm. Il les a rapidement liquidées, ces actions-là. Il a fait combien, propriétaire de Lyon Électrique? C'est quelqu'un qui le sait?
Il a probablement fait un bon coup avec la complicité du gouvernement.
Ben, de un, il s'est voté un salaire qui n'avait pas de bon sens. Après ça, on voyait qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait dans l'entreprise. Ils ont augmenté le salaire de tout le monde, ce qui n'avait vraiment pas de bon sens. Mais lui, il a liquidé très rapidement ses actions. On parle de plus de 30 millions de dollars.
Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres, hein, au juste? Là? C'est une histoire
nous
qui
nous autres, on y a payé sa richesse.
On est floués. Là. On a été floués collectivement.
Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Parce qu'à part les gens qui faisaient partie de Lyon Électrique, tout le monde est plus pauvre. Là.
C'est ça.
Je me demande si on ne peut pas faire une enquête là, plus large.
Puis le gouvernement...
33 millions de dollars, c'est pas rien. Là.
Il y a une tendance aussi qui est observable. Là. Je veux dire, le gouvernement se fait fourrer par des vendeurs de vin. Et là, on commence à avoir une liste d'histoires qui se ressemblent beaucoup, qui s'enlignent toutes pour se terminer de la même façon. Ouais. Puis nous autres, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans?
Pour ceux qui connaissent un peu la bourse, là, puis je veux pas embarquer Lyon Électrique là-dedans, mais il y a des histoires de pump and dump. Là.
Ouais.
Il y en a en sacrifice. Là.
Ouais.
Puis la plupart du temps, quand ça se passe aux États-Unis, les gens finissent avec les menottes au poing. Là. Ici, c'est quoi? Il n'y a pas d'enquête, on se posera plus de questions, c'est la faute à personne, puis c'est juste qu'on recommencera plus jamais, ça n'arrivera plus.
Il va falloir resserrer les règles à un moment donné, dans quoi le gouvernement investit, parce que là, on joue au poker, puis on semble pas connaître les règles du jeu. Il n'y a rien de pire que de se faire plumer à une table quand tu sais pas comment ça marche. Hein? « Hey, j'ai deux pareils, ça marche-tu? » Check-les à la table des grands. C'est ça, notre gouvernement, quand on s'en va négocier pour des affaires de même? J'ai l'impression que oui, de plus en plus.
Denis Ravel, ta première promesse aux auditeurs de 2025, ça a été de dire que vous allez être trois aujourd'hui dans Gravel dans le bateau.
Oui.
Vas-tu revenir sur ta promesse?
Je le sais pas encore, parce que je viens d'arriver, je sais que Véro souffre d'une laryngite. Fait que elle est supposée d'être là.
Ouais.
Je sais pas si c'est en mesure de parler. Je sais pas dans quel état. Moi, tout aller voir ça
dans
les prochaines minutes.
Moi, ce matin, je devais arriver. J'étais comme hey, salut Véro, bonne année. Mais j'ai écouté le point de presse. Là, elle me répond pas. Hey, j'étais là, hey, bonne année, Véro. Elle me répond pas. Hey, je me suis retournée dans la face de bœuf. Voyons, tu me réponds pas. Elle-même, elle me parle. C'est dans Marc, là.
Ouais. Mais moi, je me suis posé des questions parce que je ne l'avais pas vu ce matin, mais j'entendais quelque chose. T'sais, voyons, c'est qui cille? Tu vas être obligé de revenir sur ta parole.
C'est à Griche, elle a avalé l'ancien émetteur de Boulevard.
Midi 28, merci Denis.
Salut, tantôt.
Bye bye.